Bonjour à toutes et à tous, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin, de voir une église bien remplie. Je sais qu'il y a quelque chose à manger après, ça joue toujours un rôle quand même. Hein. On a beau dire, mais vous avez bien fait d'être là ce matin, c'est super. Alors, on va continuer ensemble notre série qui s'appelle « Équilibre pour une vie qui atteint sa cible ». Je reprends toujours deux petits slides de résumé rapide pour dire que nous avons été créés pour un but. Dieu a le désir que notre vie atteigne sa cible. Donc c'était un petit peu l'idée de la flèche pour dire que nous sommes comme cette flèche qui doit atteindre sa cible. Et une flèche a besoin d'être équilibrée. Pour atteindre l'objectif, le but que Dieu a pour nos vies, on a besoin d'équilibre à tout niveau. Et cet équilibre se fait parfaitement lorsque Jésus est au centre de chacun des domaines de notre vie. J'avais fait une petite expérience de centre de gravité, hein, mais un peu à l'image d'un centre de gravité, voilà. Du moment que Jésus, le centre de gravité est déplacé, hein, l'objet tombe. Alors de la même manière, si Jésus n'est plus au centre de tous les domaines de nos vies, eh bien là aussi il y a déséquilibre. Donc chaque nouvelle journée, on peut remettre Jésus au centre, on peut par sa grâce corriger la trajectoire, mais j'avais relevé que nous ne sommes pas fragmentés. Si je choisis dans un domaine de ma vie de mettre Dieu de côté, ben c'est toute la flèche qui va être déséquilibrée, même si tout le reste peut être OK, même si tout le reste va bien. Mais s'il y a des domaines dans ma vie où je dis non à Jésus, eh ben il y a forcément un déséquilibre qui est là. Alors dans cette série, nous abordons donc différents domaines de nos vies afin que le Saint-Esprit puisse vraiment nous rééquilibrer ce qui doit l'être et que rien d'autre ne vienne dominer nos vies, nous détourner ou nous asservir. Alors nous avons déjà parlé de l'équilibre dans la gestion des émotions, et puis nous avons parlé aussi de l'équilibre dans la gestion des finances et des messages que vous pouvez réécouter sur le site. Et ce matin, j'aimerais vous parler de l'équilibre dans la gestion du temps. Intéressant. Et ça me fait bien rire parce que je pense que c'est depuis la rentrée, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps. Et puis en préparant ce message, j'étais là, il y a du job. Donc oui, la gestion du temps. Et puis, on va remercier nos bénévoles qui ont donné du temps. Donc, je croyais important de parler de ce thème ce matin. Alors, gérer son temps, c'est bien sûr l'utiliser à bon escient. C'est le dépenser au bon endroit. Et c'est même des fois un peu stressant. J'imagine que vous avez le même problème que moi. Hein. C'est que même en faisant rien, ben, le temps passe. Donc, rien faire, ça peut être une option ou ça n'en est pas une, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose, ne rien faire. Alors, l'idée de ce message, c'est de regarder comment gérer notre temps pour que nous atteignions la bonne cible. Le temps que nous avons à disposition devrait servir nos objectifs, ou autrement dit, ceux de Dieu pour nous. En fait, je vais essayer d'avoir une approche assez pratique ce matin. Désolé pour les grands théologiens de cette place, mais la réalité, c'est quand même que finalement, on peut très bien gérer plein de choses dans notre vie. On peut même bien gérer notre temps. Mais ce qui va être déterminant, là où j'aimerais vous amener, c'est que notre temps nous permette d'atteindre la bonne cible. C'est ça le changement, c'est ça la différence. Parce que je peux bien gérer mon temps, mais est-ce que j'atteins la cible? Est-ce que j'atteins l'objectif que Dieu a pour ma vie? Elle est là la question. En regardant un peu la vie de Jésus, on remarque quand même qu'il n'a pas perdu son temps. Hein? Mais des fois, j'étais même assez impressionné. Ça me faisait presque peur en entrant dans le pastorat. En plus, il dit qu'il n'a pas de lieu où poser sa tente. Des fois, il n'a même pas le temps de manger. Bon, heureusement, il a les disciples qui allaient lui chercher à manger. Il y a quand même une certaine action dans la vie de Jésus. Hein? Mais sa cible était claire. Libérer les captifs, guérir les cœurs brisés, redonner la vue aux aveugles, hein, donc une vue qui peut être juste spirituelle, hein, aux aveugles spirituels, lui redonner la vue, mais il l'a fait aussi physiquement, à des malades, pardonner nos péchés en allant mourir jusqu'à la croix. Son ministère, il a duré 3 ans, hein, donc 3 années intenses, puis c'est le top, ça. Moi je me dis, tu donnes 3 ans de ta vie à fond, puis après, passe à autre chose. Bon, ok, il y a la croix, c'est vrai. Vous avez raison. Bon, ça fait déjà plus de 3 ans que je suis là. Hein. Quand je suis arrivé ici, j'avais 30 ans. Je me suis dit, on verra si ça dure plus que 3 ans. Bon, j'ai passé le cap, c'est bon. Alors, mais il était sans arrêt en relation. Jésus, il avait une vie intense. Et puis, les petits moments où il était isolé, seul, qu'est-ce qu'il faisait ? Il priait et il recherchait la volonté du Père. Puis même durant son enfance, on voit déjà qu'il y avait une direction qui était donnée. Hein, la Bible nous dit en Luc 2,51 qu'il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Moi, je suis déjà content de voir mes garçons grandir en stature. Des fois, je me dis, la sagesse et la grâce, c'est encore pas ça, tout à fait. Il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et puis, il y a ce fameux épisode dans le temple que vous connaissez tous parfaitement, hein, où il dira à ses parents terrestres, hein, il fallait que je m'occupe des affaires de mon père. Donc, déjà à 12 ans, il investissait vraiment là le temps où ça faisait sens dans la direction dans laquelle il devait aller. Alors, nous faisons tous l'expérience du besoin d'équilibre, principalement dans ces 5 domaines que je vais énumérer ici. Le premier, c'est la vie spirituelle, notre temps avec Dieu, nos moments de culte personnel durant lesquels on va se ressourcer. Temps de prière, lecture de la Bible, chant peut-être. Peut-être c'est aussi des temps de pleurs, c'est des temps de cris. On peut tout vivre dans la présence de Dieu, il n'y a pas de problème avec ça. C'est aussi des temps de recherche de direction, d'écoute de Dieu. C'est un lieu de transformation, moment d'intimité, tellement important. Ça c'est la vie spirituelle qui est censée nous prendre un peu de temps. Après, à voir. Hein. On verra ça pour la suite du message. Mais disons qu'en tout cas, ça fait partie du package. Et puis, il y a la vie familiale, bien entendu, temps en famille, la famille qui peut être sous mon toit, puis peut-être c'est la famille un peu plus élargie pour ceux qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de conjoints, ou c'est peut-être des amis qui sont comme une famille pour vous. Mais voilà, ça prend du temps, la famille. Et puis, bien sûr, évidemment, il y a la vie professionnelle. On aimerait parfois bien qu'elle soit un petit peu en pause, mais elle fait partie pleinement de la vie, donc le travail, pas besoin de décrire longtemps tout ça. Et puis, il y a la vie ecclésiale, la vie à l'église aussi, pour vous qui êtes là, l'église locale, les moments communautaires, le service dans l'église. Et puis, bien sûr, tout ce qui est de la vie sociale, vie associative, relations avec les amis, les voisins, le sport, les loisirs, etc. Donc, 5 domaines principaux ici, dans lesquels on est souvent en tension. Est-ce que vous êtes en tension parfois dans ces 5 domaines ? Pas facile, hein ? Alors, si je choisis de... Parce que des fois, on réalise qu'on a besoin hein, de ce temps spirituel, heureusement. Alors, si je choisis de me mettre à part, de m'isoler, de rester juste avec ma Bible, de jeûner, de prier, même si ça peut faire du bien à ma vie spirituelle, eh bien, on réalise que ce ne sera pas un bon équilibre pour la vie de famille, par exemple. Hein, des fois, j'ai fait une ou deux fois des périodes de jeûne, et puis, c'était compliqué, je ne vous dis pas. Parce qu'en fait, je n'avais pas calculé qu'il y avait l'anniversaire d'un des enfants, et bien, puis, mais chérie, tu ne veux pas prendre un bout de gâteau puis... Bon, je voulais vivre quelque chose de spirituel, je voulais prendre du temps avec Dieu. Et bien, voilà, il faut gérer cet équilibre-là. Donc, ça ne va pas, on ne peut pas juste s'isoler dans un coin pour vivre ce qu'on voudrait vivre spirituellement. Et puis, si je m'investis toutes mes soirées dans la vie associative du village, pas certain que ce soit bon peut-être pour l'équilibre professionnel, parce que vous serez tous les soirs à point d'heure, vous aurez bu l'apéro parce qu'on est au canton de Vaud, donc ça va être dur de vous lever le matin, et puis la vie familiale encore, elle va encore en prendre un autre coup, parce que vous êtes loin tous les soirs, etc. Pas certain que ce soit bon, on a manqué la cible. Puis si je m'investis à fond auprès de mes enfants, mais que je passe pas du tout de temps avec Jésus, que je ne prends pas soin de ma vie spirituelle, j'aurai aussi un déséquilibre parce que je ne pourrai pas être totalement le papa que Dieu veut que je sois. Je vais manquer de patience, je vais pas avoir l'amour inconditionnel que je peux trouver d'abord auprès de Dieu, etc. etc. Donc, on réalise bien qu'on a besoin d'un équilibre dans tout ça. Puis c'est toute la difficulté avec la gestion du temps, c'est que ça touche beaucoup de domaines, ça a beaucoup d'impact. Ce n'est pas juste équilibrer un domaine. En fait, une chose, on déséquilibre une autre. Le désir de Dieu n'est pas que tu t'isoles dans une démarche hyper spirituelle, il désire être au centre de ton temps. Donc ça, c'est vraiment le désir de Dieu. Il désire que tu investisses là où ça fait sens, dans la direction de ta cible. Il désire aussi qu'il y ait un juste équilibre entre tous ces différents domaines que je viens de citer. Bien sûr, notre temps avec Dieu, je le crois, devrait être numéro un pour assurer l'équilibre du reste. Moi, je suis moi-même en constante recherche d'équilibre. C'est génial d'être en recherche d'équilibre tout le temps, hein, dans la gestion de mon temps. Puis je vous l'ai dit, c'était un mois de septembre bien chargé. Et je ne sais pas si vous réalisez que le temps est probablement devenu ce qui est de plus précieux au 21e siècle. C'est ce qui a maintenant le plus de valeur. Non seulement on investit des milliards pour essayer de nous faire gagner du temps dans un domaine ou dans un autre, mais il y a beaucoup de gens qui paieraient cher pour avoir plus de temps dans une journée. Ça devient très précieux. Et je le vois lorsque je peux organiser des événements, des choses qui sont très intéressantes, qui ont de la valeur. Je vois que le temps est devenu quelque chose de tellement précieux que les uns et les autres réfléchissent longuement avant de choisir ou de s'investir à quelque part. Donc le temps est devenu une denrée rare et précieuse. Alors c'est d'autant plus important de savoir le gérer. Je ne sais pas pour vous, mais je vois qu'il y a souvent un décalage entre l'endroit où je voudrais investir mon temps et là où j'investis mon temps de manière effective. Ça vous arrive, ça ? Hein, on sait où on voudrait le faire, puis finalement, la réalité, c'est qu'on l'a investi ailleurs. Et puis, ce qui n'est pas évident non plus, c'est que si on l'a investi au bon endroit, on ne peut pas le récupérer, ce temps-là. Ça, c'est dur, hein, c'est frustrant quand même. On ne peut pas le récupérer, le temps a passé, c'est comme ça. Et on peut avoir manqué la cible. Donc, on doit vraiment apprendre à gérer notre temps de manière stratégique, toujours avec la cible en vue. Alors, comment faire ? Donc, il faut mettre des priorités. Ça, c'est la première chose. Mettre des priorités, j'ai dit, c'est très pratique ce matin, on va mettre des priorités. Mais ce qui est aussi intéressant quand on veut mettre des priorités, c'est que ce qui est prioritaire pour toi ne l'est peut-être pas pour ton voisin. Ce qui est prioritaire pour ta femme n'est peut-être pas prioritaire pour toi. Donc, il va falloir, à un moment donné, faire un choix. C'est quoi qui est prioritaire ? Qu'est-ce qui est prioritaire ? Alors, on va essayer de faire un petit exercice ensemble. Il y a un outil qui est très connu en gestion du temps. Sûrement, vous avez déjà entendu. Il s'agit de la matrice d'Eisenhower. Ça vous dit quelque chose ? Ah, c'est super, je vous apprends même un truc. Bon, alors, c'est l'inventeur, c'est son nom, en fait, Eisenhower, Dieter Eisenhower. Et je vous explique rapidement. L'idée, c'est d'avoir un tableau à double entrée pour classer les choses. Alors, à gauche, dans les deux colonnes, les deux lignes de gauche, c'est ce qui est horizontalement donc important et non important. Et puis verticalement, c'est ce qui est urgent et non urgent. Pas mal jusque-là, hein ? Vous avez compris, ça va ? Donc, vous pouvez utiliser ça au boulot, hein, ça va assez bien. Par exemple, ce mail du fournisseur Y, il est quoi ? Il est important ou pas ? Il est urgent ou pas ? Et puis, selon où vous le placez, ça va vous dire... S'il faut lui répondre rapidement, le gérer rapidement. Hein. La demande de Madame Hortense, elle est peut-être pas très importante, et puis pas très urgente. Alors, on peut laisser tomber, ou on peut déléguer, ça marche bien aussi. Bon, c'est dans le monde de l'entreprise, hein, on ne ferait pas ça à l'église. Hein. Bon, le rapport de la séance 3223, parce que dans le monde de l'entreprise, il y a beaucoup de séances. Voilà, le rapport, est-ce qu'il est important, est-ce qu'il est urgent, etc. On peut faire comme ça. Mais maintenant, on va regarder ensemble quelques deux, trois autres choses qui nous concernent tous. Mais vous allez répondre avec moi, d'accord ? On va un petit peu faire ça ensemble. Alors, le café avec la voisine ou le voisin, vous le mettriez où ? Ah ouais, donnez le numéro. Important et urgent. D'accord ? Quelqu'un a un autre avis ? Ok, important, non urgent, très bien. Jeu avec les enfants. Un,
deux.
Ok, on est entre le 1 et le 2, ça va. Moment avec Dieu. Non mais, vous dites ça pour moi ou... Bon. Un, d'accord. Repas avec les collègues. Moi, je comprends que vous ayez une vie chargée, hein. Franchement, quand je vois ça. Ok, discussion avec votre conjoint.
Ah.
Hommes et femmes, vous êtes témoins là. Hein? Ok. Alors là, j'attends un éclat de voix. Célébration de l'escale. Bien sûr, c'est sûr. Loisirs entre amis.
Deux,
bon. Activité physique.
Quatre.
On laisse tomber l'activité physique. Quatre, ok. Passer la tondeuse à gazon.
Quatre.
Ça dépend, hein. Il y a des règles quand même. Service pour Dieu. Oh, c'est sérieux là. Faire les paiements. C'est pas important pour vous. Moi je dirais, si c'est au début du mois, ben probablement c'est fait. Quand c'est la fin du mois, ça commence à presser. Réparer le tiroir du meuble de la salle de bain. Alors là, il y a les hommes qui n'ont pas répondu. Bon, c'est 4 ça peut toujours attendre ça. On se débrouille avec. Alors, vous comprenez un peu l'idée. L'essence en fait de cette matrice, c'est de savoir différencier l'important de l'urgent. Et ce qui est important, mais pas urgent, passe avant le non important et urgent. Donc, c'est vraiment le 1 et le 2 dans l'ordre. Ça, c'est intéressant, dire que l'important doit aller avant ce qui est urgent. Et puis, on constate qu'il est assez difficile, mais vous, je ne sais pas, vous avez répondu comme ça très rapidement, mais moi, je trouve qu'il est assez difficile d'avoir une notion d'urgence pour ce qui a trait à notre vie spirituelle. Franchement, temps avec Dieu, ok, c'est important, mais est-ce que vous avez toujours la notion d'urgence ?
Ça dépend.
Ah, ça dépend. Ça dépend des situations. Voilà. C'est pas si simple. Et puis, on voit aussi que vous avez presque quand même tout mis dans le haut. Vous êtes d'accord ? Il y avait tout qui était important. Vous avez remarqué ça ?
Ouais.
Ok. Alors, maintenant, est-ce que vraiment mon moment avec Dieu a la même importance que, je sais pas, mon temps avec la voisine ou que faire mes paiements ? Ou... Finalement, c'est quoi qui est vraiment important ? En fait, je ne vous ai pas du tout aidé, je vous ai donné un truc, puis vous avez tout mis dans les mêmes cases. Qu'est-ce qui est vraiment important ? Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas d'emprise sur ce qui est urgent. Mais on peut choisir, hein, parce que le temps passe, c'est comme ça, c'est urgent, il y a des délais, et puis il faut les respecter, on n'a pas vraiment d'emprise. Mais par contre, nous pouvons choisir ce qui est important. C'est vraiment là que je veux en venir avec vous. C'est à nous de définir ce qui est important. Et du coup, dans l'idée d'être équilibré avec la gestion de notre temps, puis d'aller, d'atteindre la cible, d'atteindre ce que Dieu veut pour nous, alors on doit mettre des critères, on doit choisir. Mais c'est quoi qui est important ? C'est quoi qui va m'amener là où je veux aller ? Alors, on va regarder ensemble trois questions pour définir ce qui est vraiment important. Rapidement, la première question, c'est est-ce que ça touche le premier et deuxième commandement, que voici, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces commandements, ils touchent aux trois domaines principaux de relation, la relation avec Dieu, tu aimeras ton Dieu, la relation aux autres, tu aimeras ton prochain, et la relation avec nous-mêmes, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous devrions mettre une priorité à ce qui touche notre relation avec Dieu. Nous avons plus de mal, mais nous devrions aussi investir un peu de temps pour ce qui a trait à notre vie, à notre être intérieur. S'aimer soi-même, c'est apprendre à se respecter, c'est savoir se respecter, c'est prendre soin de soi, corps, âme et esprit. Et pour cela, parfois, hein, pour moi, j'ai besoin d'être seul, par exemple. Des fois, j'ai besoin de prendre du temps tout seul. Je fais des petits moments de 24 heures tout seul. Ça peut paraître un peu fou, ça peut dire, ah, mais est-ce que c'est égoïste ? Mais non, c'est un besoin nécessaire pour prendre soin de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Donc c'est des petits temps qui vont permettre mon équilibre. je dois en faire une priorité. Aimer l'autre, être en relation, devrait être aussi important. Donc le café avec le voisin ou la voisine, vous avez raison, ça doit être en tête de liste, car il est bon d'investir dans les relations. Aujourd'hui, on court tous individuellement, on ne prend pas le temps les uns pour les autres, mais comment aimer quelqu'un sans investir du temps? Et pour ma part, je n'aime pas passer, parfois c'est vrai que c'est le cas parfois, mais je n'aime pas passer pour un pasteur occupé, franchement. Parce que c'est sûr que je suis occupé, mais lorsqu'une personne me dit « j'aimerais bien dire quelque chose, mais je ne veux pas te prendre du temps », moi, ça me fait mal, ça m'énerve même. Mais non, mais tu ne me prends pas du temps, je vais être là pour toi. Les relations, ça doit être primordial. Si je ne peux pas prendre une heure de temps avec quelqu'un, alors il y a un souci. Donc on a plein de choses à gérer tous, mais la relation devrait primer. La relation avec Dieu, la relation avec les autres, la relation avec soi-même. Donc est-ce que ça touche ces deux commandements? Première question à se poser. D'accord? Si on touche là, on est déjà en bonne direction vers la bonne cible. Ok? Vous êtes toujours avec moi? Parfait. Deuxième question qu'on peut se poser. Est-ce que ça touche mon appel, mon ministère, service pour Dieu, ce que je porte sur mon cœur? Sur mon cœur, pardon, il n'y a pas de S. Ça vous a choqué, j'espère. Donc, si on veut investir notre temps avec équilibre afin d'atteindre nos cibles, il va être logique de mettre du temps là où Dieu nous appelle, là où Dieu nous a donné des dons, là où Dieu a déposé quelque chose de fort sur notre cœur. Bien sûr, il faut connaître ces choses-là. Et puis, voilà, si vous êtes nouveau, si c'est une démarche que vous n'avez pas encore faite, mais prenez du temps avec quelqu'un, priez, demandez vraiment, puis être à l'écoute de Dieu pour dire, mais quel est mon appel? Qu'est-ce que tu attends de moi? Ça peut être pour un temps donné, ça peut être pour une saison, mais il y a quand même des choses que Dieu a déposées clairement dans nos vies. Il y a toujours une parole que j'ai gardée dans mon cœur qui dit « Remplis bien ton ministère. » Remplis bien ton ministère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Remplis bien ton ministère. Ce n'est pas juste un truc de pasteur de bien remplir son ministère. En fait, le mot, c'est diaconia. Donc, vous connaissez très bien, c'est ça qui a donné diacre, diacona. On peut donc le traduire par service. C'est en fait ceux qui répondent aux besoins des autres, le diaconat. Donc on va parler de ceux qui sont appelés par Dieu pour le service. Et puis il y a un texte dans Colossiens où c'est une exhortation à un chrétien de Colosse, prénommé Archippos. Je crois que je vous l'ai mis. Il y a deux Timothée, voilà. Et dit à Archippos, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. J'étais un peu fatigué. Hein. Ok. En fait, il y a une exhortation, là, par exemple, à discerner, donc prends garde au ministère que tu as reçu, à discerner, à voir avec les yeux de l'esprit ce que Dieu lui demande d'accomplir et de l'accomplir jusqu'au bout. C'est ça en substance. Donc, dans tes multiples tâches, qu'est-ce qui est en lien à ton appel? Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi et que tu portes? Si tu veux gérer ton temps de manière équilibrée pour atteindre ta cible, ce qui touche ton service pour Dieu, ton appel, ne devrait pas être remis de côté, ne devrait pas être remis à plus tard. Ce n'est pas important mais non urgent. Ça devrait être premier. C'est très important, c'est très urgent. Votre appel, votre service pour Dieu devrait être accompagné d'une attestation intérieure aussi de l'esprit. Quand on rentre dans ce que Dieu a mis dans notre cœur, on a cette attestation qui dit « c'est juste ce que tu fais, c'est bon, c'est là, vas-y, je t'ai voulu là pour cette saison. » Alors ton service diaconal, ton ministère, pour le Seigneur, il est important. Et en y mettant vraiment une priorité, tu vas toucher la bonne cible, tu vas être là où Dieu t'appelle, tu vas remplir ton ministère, le ministère que Dieu t'a donné. Mais il est nécessaire d'y prendre garde. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui voudraient nous empêcher d'entrer dans l'appel que Dieu a déposé pour nous. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Discerne, vois les choses. Parce qu'il se peut, rien qu'avec notre gestion du temps, qu'on passe à côté de ce que Dieu a déposé. Donc ça, c'est une question. Est-ce que ce que je fais contribue à œuvrer dans mon appel? Est-ce que en faisant, et ça peut être large, je veux dire, même dans votre travail, si vous savez quel est les dons, quel est l'appel que Dieu a pour vous, est-ce que je suis en train de travailler à mon appel? Troisième question, est-ce que ça touche ma sphère de responsabilité? Jouer avec mes enfants, donc on a dit c'est très important, on l'avait mis en un, important et urgent. Pourquoi? Parce que ça touche ma responsabilité de parent. Donc ce n'est pas à mettre dans pas important et pas urgent. Parce qu'on pourrait quand même se mettre à quatre pattes, jouer au petit Lego. Bon, il y a des temps pour tout, hein, mais c'est toujours, ça coûte quelque chose des fois. Ou c'est juste moi peut-être. Mais non, ça fait partie de ma sphère de responsabilité. Donc c'est important. C'est important. Je ne peux pas me dédouaner, je ne peux pas dire « pas grave, ça compte pas ». Non, parce que du moment que je suis devenu papa, ma responsabilité, c'est aussi de prendre du temps avec eux, c'est de jouer avec eux, c'est de les aider à grandir, c'est d'en faire des disciples. C'est tout ça à la fois. Mais je peux pas passer à côté. C'est ma responsabilité. Alors, il y a aussi parfois des devoirs avec des responsabilités. Si je suis engagé dans un poste à responsabilité, je vais devoir faire le boulot pour lequel j'ai été engagé et sur lequel j'ai la responsabilité. C'est assez normal aussi. Hein. Donc, c'est quelque chose d'important. Mon boulot, ben voilà, j'ai signé un contrat, je suis appelé à faire un boulot. Mais je peux pas dire, ben, finalement, mon temps avec les enfants, c'est urgent et important, le boulot, ça passe après. Non, c'est comme ça, c'est aussi important, j'ai des responsabilités et je dois y faire face, donc c'est important. Mais ça ne doit pas être au détriment de la famille, c'est pour ça qu'on revient dans cet équilibre, ça ne doit pas être au détriment de la famille, ça ne doit pas être au détriment de mon temps avec Dieu, ça ne doit pas être au détriment de mon temps de repos, parce qu'autrement il y a des équilibres. Il y a des choses qui vont se retrouver qui sont importantes aussi, mais je vais devoir gérer cet équilibre. Donc finalement, l'équilibre, il est présent lorsque tout tend dans la même direction, sans se marcher dessus, et que Jésus est au centre. Magnifique, hein ? Donc l'appel, le ministère devrait me permettre d'être en relation avec mes voisins, par exemple, hein, tout en prenant soin de mes enfants. Si l'appel, votre service pour Dieu, vous empêche d'être à la maison, et puis vous empêche de parler à votre voisin, il y a quelque chose qui est plus équilibré. Et ça, je vois beaucoup de gens dans le ministère qui n'ont plus aucun contact avec des non-croyants, finalement, des gens qui les entourent, parce qu'ils ont toujours le nez dans le guidon. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, ce n'est pas équilibré. Et ça peut être vrai pour n'importe quel boulot, parce que les boulots prennent beaucoup de temps, et puis on commence à inverser les priorités. Et finalement, on se dit, oui, mais tu vois, chérie, mais bon, il faut se bosser, puis si tu veux qu'on parte en vacances, ben, il faut que j'y arrive, et tout. C'est sûr, c'est une réalité, mais ce n'est pas équilibré. Donc on doit travailler qu'est-ce qui est vraiment important. Et on a besoin de l'Esprit, on a besoin du Saint-Esprit et de la grâce pour vivre ça, mais je vous encourage. Mon temps avec Dieu devrait me permettre de bien vivre mes responsabilités, par exemple, d'aimer, d'accomplir pleinement mon service. Donc tout devrait aller comme ça, être utile les uns et les autres sans déséquilibre. Il y a équilibre aussi lorsque je fais dans le temps qui m'est donné, lorsque ce que je fais dans le temps qui m'est donné sert Christ. C'est ce que j'ai mis. Il y a équilibre lorsque ce que je fais dans le temps qui m'est donné sert Christ. Il y a ce verset de Colossiens 3, vous connaissez bien. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Ça, c'est l'autre manière d'être en équilibre. C'est alors que je suis sur mon poste de travail, c'est de chercher, dire, ok, je fais ça pour toi. Je désire te servir là où je suis, partout. Là où je suis, je veux te servir. Et ainsi, on est toujours dans l'équilibre vers la flèche, vers la cible, pardon. Ma dernière pensée, dans cette perspective d'équilibre, c'est que nous sommes appelés ensemble, tous ensemble, à racheter le temps. Je ne sais pas si vous avez vu dans la Bible, il y a deux fois racheter le temps dans Colossiens 4, 5 et dans Éphésiens 5, 16. Et puis je me suis souvent demandé, en grandissant, ça veut dire quoi racheter le temps ? Moi, je ne l'ai pas acheté la première fois déjà. Pourquoi je devrais le racheter? Et puis, est-ce que vraiment le temps est à vendre? C'est justement la grande question. Est-ce qu'on peut acheter le temps? Ce serait bien. Je vais le lire tout à l'heure. Donc, Paul donne cette recommandation après avoir premièrement dénoncé des mauvais comportements pour ensuite dire au verset 8, 10 et 17, on va sauter un petit peu dans Éphésiens 5, il dit « Si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, conduisez-vous comme des enfants de lumière. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Amen. Le temps ici, ce n'est pas le temps chronos, le temps qui passe de notre montre, mais c'est bien la période de temps, l'époque, la saison. Donc si j'essaie de traduire un petit peu littéralement, Paul nous appelle au travers de ce texte à bien regarder à notre manière de marcher, afin de mettre à profit cette période de temps, cette saison dans laquelle nous sommes, en discernant la pensée de Dieu. Donc c'est en opposition au fait de participer aux œuvres stériles des ténèbres qu'on a lu avant, ou de se conduire comme des fous. Donc c'est mettre à profit. Racheter le temps, c'est utiliser à bon escient l'espace-temps, la période qui est la nôtre. C'est en faire quelque chose de bon selon la volonté de Dieu. Racheter, ça, forcément, ça m'a fait aussi écho. Le même terme, racheter, il est traduit souvent en lien à l'œuvre de Jésus. Il nous a rachetés. On prend souvent l'exemple de l'esclave qui a été racheté à son maître pour devenir un homme libre. Nous étions esclaves du péché, il nous a rachetés pour la vraie liberté. Et puis, dans cette même idée, il nous est demandé ici de racheter le temps comme de le libérer de son esclavage, de sa mauvaise gestion, de sa mauvaise utilisation pour en faire quelque chose de juste selon la pensée de Dieu, pour l'utiliser pour des œuvres de lumière qui vont amener la lumière. Finalement, on a tous sur la terre le même espace-temps. On est tous dans la même saison aujourd'hui ici, en Suisse, là on est à Yverdon, on vit la même saison. Mais c'est notre manière de dépenser le temps chronos. C'est le temps qui passe dans cette saison qui change d'un individu à un autre. C'est ce que nous faisons qui va être différent. C'est notre manière de nous conduire dans ce temps donné. Alors, racheter le temps, c'est user sagement de toute opportunité de faire le bien. Moi, je crois que c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de racheter le temps. C'est mettre au profit de la meilleure manière qui soit le temps, la saison de vie dans laquelle nous sommes. Je l'ai mis comme ça. Mettons à profit de la meilleure manière qui soit ce temps, cette saison de vie qui nous est donnée afin d'atteindre la bonne cible et accomplir la volonté de Dieu. C'est ça que nous pouvons faire en mettant des bonnes priorités, en cherchant à atteindre la cible alors que nous dépensons notre temps, en gérant notre temps, eh bien, on va racheter le temps. On va utiliser à bon escient la période de vie dans laquelle nous sommes. Ça, ça devrait nous motiver. Dire, ok, on va racheter le temps. On va vraiment changer cette culture du temps qui passe où il y a un tas de mauvaises choses qui sont faites dans cette période de temps. Mais nous, chrétiens, on désire utiliser à bon escient la saison dans laquelle nous sommes. Faire une différence. Parce que je mets ce qui est important, je choisis mes priorités en fonction de la cible que Dieu a mis devant moi. Amen. Alors, j'aimerais vous dire que vous êtes nombreux ici à contribuer à racheter le temps et à considérer votre service pour Dieu comme important. Et puis ce matin, on aimerait vous honorer, vous dire merci. Parce que pour vous, vous l'avez mis en tout cas, dans l'important, urgent, ça dépend, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez considéré que c'était quelque chose d'important. Et j'aimerais prier vraiment que vous preniez conscience aussi que par votre service, vous honorez Jésus et puis vous êtes dans la cible. Puis j'ai prié aussi que vous réalisiez que par votre service, vous développez vos dons. Vous développez ces talents, vous développez justement cet appel que Dieu a déposé sur vous. Et en faisant ça, vous honorez Dieu. qui vous les a donnés. Puis je prie que vous réalisiez que par votre service, vous êtes en bénédiction pour le corps dans son ensemble. Et puis là aussi, vous êtes pleinement dans la cible. Vous êtes dans les relations, vous honorez Dieu, vous aimez Dieu, vous bénissez aussi votre frère et sœur, et puis vous apprenez à vivre, à développer les dons que Dieu a mis. Alors, pour toutes ces raisons, on aimerait vraiment vous dire un grand merci. Et avant d'accueillir les groupes, on aimerait vraiment, par secteur, c'est toujours difficile de faire un petit peu lever les gens, bouger, parce qu'il y a toujours le risque d'un coup, on ait oublié un secteur, ou je ne sais pas. Si tel est le cas, bien sûr qu'il n'y a absolument rien de volontaire, donc ne prenez jamais quelque chose de personnel, si d'un coup on a oublié de citer votre secteur, mais je ne crois pas, j'espère pas. Mais j'aimerais juste qu'on puisse prier avec reconnaissance, et avec ce désir de dire au Seigneur, le temps que tu nous donnes, on veut continuer à le mettre à bon escient. Et on veut demander ton aide pour que le temps, nous puissions l'utiliser jusque dans la cible, que nous puissions porter du fruit, être dans la cible chaque journée. Alors on va juste incliner nos têtes pour ces quelques instants. Alléluia, Seigneur Jésus. Oui. Père, la question du temps aujourd'hui, elle est tellement sur la table tout le temps. On est stressé, pressé, compressé. On ne sait plus tellement comment gérer notre temps parfois. Tant il y a de choses, tant il y a d'opportunités, tant il y a de demandes. Seigneur, ce matin, on veut se poser devant toi, parce que toi, tu es le maître du temps. Et on désire que ce que tu nous appelles à faire soit vraiment ce que nous faisons. On ne veut pas se perdre dans 10 000 autres activités. Seigneur, on désire investir notre temps d'une manière qui t'honore et d'une manière qui nous permet d'atteindre le but que tu as pour nous. Et Seigneur, je prie pour ton secours dans cette gestion du temps, pour les uns et pour les autres, que nous puissions vraiment discerner ce qui est important, ce qui est juste selon ton cœur, que nous posions les bonnes questions, que nous puissions vivre cette réalité de l'équilibre dans tous les domaines qui ont été cités. Seigneur, je pense au domaine familial qui est parfois le parent pauvre. Seigneur, je prie qu'il y ait ce juste équilibre dans tous ces domaines. Seigneur, je veux aussi te remercier ce matin pour toutes les personnes qui ont choisi d'investir du temps dans l'église locale, mais dans tout autre service pour toi, en dehors de ces murs. Et je veux vraiment te demander ta bénédiction, ta faveur sur ce qu'ils font, et qu'ils puissent réaliser ce qu'ils font, qu'ils ne le fassent pas juste comme ça, mais qu'ils puissent réaliser ce qui est en train de se produire, qu'ils puissent sentir qu'ils sont à la bonne place, qu'ils puissent réaliser qu'ils atteignent la cible que tu as mis pour eux. Seigneur, merci pour la valeur de chacun au milieu de nous. Et je te prie pour chaque groupe qui sera maintenant, chaque secteur qui va être présenté, afin qu'ils puissent recevoir qu'ils puissent saisir la reconnaissance, qu'ils puissent dire oui, on me remercie et j'accepte ces remerciements, simplement, dans le nom de Jésus. Amen.